Marc, chapitre 16, à partir du verset 15. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » On met n'importe quoi, quelquefois, dans cette pensée de croire, mais là, il s'agit bien sûr de croire en Jésus-Christ, en sa divinité, en son œuvre sur la croix pour chacun de nous, bien sûr, hein, vous l'avez compris. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient.
Amen.
Amen. Le Seigneur travaillait avec eux. Cela résume en quelques mots ce qui s'est passé après la Pentecôte. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. À votre avis, est-ce que Jésus est changé ?
Non.
Il est toujours le même ? Il est le même ?
Hier,
aujourd'hui et éternellement. Amen. Alors nous comprenons le secret de leur efficacité, de leur réussite en quelque sorte dans le témoignage. Jésus était en action avec eux. Il était en eux, ils l'avaient reçu dans leur cœur comme leur sauveur, comme leur Seigneur. Ils avaient reçu le baptême dans l'Esprit, ils avaient reçu une grande force et ils témoignaient, ils apportaient l'évangile de Jésus-Christ et Jésus était à l'œuvre avec eux, Jésus travaillait avec eux. Il ne faut jamais oublier quand même cette parole du Seigneur. Elle nous interpelle, il a dit un jour, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Je crois que c'est important parce qu'avec lui, nous pouvons faire des exploits. Avec lui, nous pouvons avoir une pleine réussite dans notre témoignage et dans notre vie spirituelle ici-bas. Alors l'efficacité du service ne dépend pas, et vous le savez bien, d'abord des qualités humaines, des qualités naturelles des enfants de Dieu, mais avant tout de la présence de Jésus dans nos cœurs et avec nous, dans notre activité. Jésus n'est pas le chef qui se contenterait de regarder ce qui se passe, hein ? Vous l'avez compris, mais il veut d'abord, et nous le savons, régner pleinement dans nos cœurs pour ensuite travailler avec nous. Les deux choses sont tout à fait liées. Donc il va y avoir ce que lui seul peut faire. Il y a ce que lui seul peut faire, ce qui est en quelque sorte sa part de travail. Et il y a bien sûr la nôtre. Mais je crains que quelquefois, vous savez, nous nous comportions un petit peu comme les petits-enfants qui s'imaginent qu'ils peuvent faire tout ce que les grands peuvent faire. Nous comportons quelquefois comme ça et c'est dommage. Mais en ce qui concerne travailler avec le Seigneur, ça nécessite que nous regardions Jésus non comme un serviteur, mais comme le décideur. Comme le décideur, comme celui qui travaille, mais qui dirige les siens par son esprit. Alors il nous appartient de nous soumettre pleinement à lui, à sa volonté. Or tiens Seigneur, oh j'ai décidé, je vais faire telle chose pour toi, mais ça me plaît, alors je vais le faire. C'est quelque chose qui m'intéresse, quelque chose que j'aime beaucoup, je vais le faire, etc. Je vais dire ceci, je vais faire cela. Eh bien non, c'est pas ça. On prend souvent le problème à l'envers. On prend la place de Dieu, on considère Jésus comme le manœuvre qui va nous donner un coup de main dans notre activité. C'est pas du tout ça. Je pense que chacun en est conscient. Il nous appartient, bien sûr, de nous soumettre à lui, mais trop de chrétiens, je crois, prient et jeûnent pour avoir du succès. Ils ont décidé ceci, ils ont décidé cela, et on va prier, le Seigneur va nous aider. Ah, je ne suis pas sûr qu'on ne prend pas le problème vraiment à l'envers. Nous avons envie de faire très souvent ce que notre chair a envie. Ce que nous avons envie d'accomplir parce que ça nous plaît. Mais vous savez, en général, le Seigneur nous demande, et très souvent d'ailleurs, des choses qu'on n'a pas envie de faire. Bah oui, c'est pas toujours des choses qu'on a envie de faire. Alors nous avons besoin, c'est vrai, d'avoir d'abord envie de travailler, avoir le désir de travailler. Ensuite, de ne pas faire uniquement ce qui nous plaît. Moi, j'ai jamais eu envie de prêcher, je vous l'assure. J'étais très timide. Si vous m'aviez dit, il y a un certain nombre de dizaines d'années, là, tu vas un jour prêcher. Non, certainement pas. Oh là là, tout mais pas ça. Tout mais pas ça. Je vais vous raconter un petit truc, une petite aventure qui m'est arrivée, enfin une petite expérience, disons. Un jour, c'était à Cobille, le pasteur dit qu'ils avaient besoin, de frères et sœurs pour chanter la chorale. Je me suis dit dans ma tête, ça c'est bon pour toi. Tu chantes comme une gamelle. Jamais tu pourras chanter à la chorale. Puis l'esprit me poussait. C'est pas possible. Qu'est-ce que cette histoire? C'est encore une idée que je me fais comme ça. Et puis l'esprit me poussait un peu plus fort. Oh, j'ai des coups de Seigneur. Si quelqu'un me dit précisément, viens à la chorale avant de sortir de l'église, j'y vais. Écoutez, j'étais quand même un peu de bonne volonté. Hein. Alors, j'ai salué Roger Coppa, à l'époque on s'embrassait d'ailleurs. Oui, bah oui, c'est encore une époque bénie. Et j'avais mis le pied sur la marche pour sortir. Je disais, oh, ouf, l'affaire est réglée. Et Roger Coppa qui me poursuivait m'attrapait par la manche, m'a dit, frère, il faut que vous veniez chanter à la chorale. Aïe, 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 aïe. Et vous savez, le Seigneur nous forme. Nous sommes à l'école de Dieu.
Amen.
Nous sommes à l'école de Dieu. Et plus tard, quelques années, j'ai chanté à la chorale. Et un peu plus tard, on m'a demandé, bien sûr, de diriger les chants dans l'église et d'apporter la méditation. Le Seigneur me formait. C'est une formation qui commençait là. Bien sûr, vous l'avez compris.
Amen.
Vous voyez, ce n'est pas toujours ce qu'on a envie de faire. C'est pas toujours ce que nos qualités naturelles nous permettraient de faire. Le Seigneur veut nous embaucher, veut se servir de nous comme il l'entend. Il veut nous conduire, il veut nous donner sa force, nous inspirer les bonnes pensées, les œuvres bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, par amour pour lui, bien sûr. Afin que nous les pratiquions par amour. On est bien d'accord. Alors nous le savons, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix et ses pensées au-dessus de nos pensées. Pierre, vous savez, il avait travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais il a dit sur ta parole, je jetterai le filet. Jésus nous a dit, prêchez la bonne nouvelle, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Alors, il est important que ce soit sur sa parole et avec lui. avec son secours, avec son aide, afin qu'il travaille avec nous, que nous jetions nos filets. Vous savez, on a vraiment le sentiment qu'on est dans les derniers temps. Quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, on se pose bien des questions. Nous avons besoin de jeter nos filets. Le temps est court. Alors l'enseignement est très important. Vous savez que toute entreprise dans ce monde a vocation à être efficace, sinon elle fait faillite. Et une des responsabilités du chef d'entreprise, c'est la formation de ses employés. Il y a beaucoup maintenant, on en parle beaucoup de formation et on fait beaucoup de formation. Mais l'Église n'est pas une entreprise humaine, bien évidemment, mais elle a le devoir d'être efficace. L'efficacité, elle va s'accroître, elle va s'acquérir, autrement dit, plutôt, par l'enseignement de la parole de Dieu, d'abord. Remarquons sa place dans le ministère de Jésus. J'ai noté Luc 19, 47, il enseignait tous les jours dans le temple. Et puis, par exemple, avant de quitter ses disciples, il leur a dit, Matthieu 28, 20, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. À l'école du Seigneur, on apprend à travailler avec bon sens et avec intelligence. Je pense que vous êtes d'accord. David le disait, au psaume 119, « Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence afin que je vive. » C'est important pour être efficace dans l'œuvre de Dieu. Alors moi, j'ai entendu des chrétiens me dire « Oh, moi, l'Église, ce que j'aime, c'est la louange. » C'est bien, hein. On ne va pas critiquer ça. Aimer le Seigneur, c'est aussi le louer. On est bien d'accord, c'est très bien, c'est très beau, il n'y a rien à redire. Mais si je viens à l'église seulement parce que j'aime la musique, que j'aime chanter, ça n'a pas de sens. Il y a un problème. Si j'aime pas premièrement mon Seigneur, ça n'a pas de sens. Le centre de notre rassemblement, c'est Jésus. La parole. C'est la parole. Il est important que nous aimions la parole et que nous la recevions dans nos cœurs pour la vivre et la mettre en pratique. Et puis, vous savez, Jésus, c'est toute notre joie. Non ? Les joies de ce monde, ils sont factices. Il passe. C'est pas qu'il n'y ait pas quelques joies ici-bas. Joie passagère, bien sûr. On ne va pas les négliger non plus. Elles nous font du bien. Quelquefois, on a besoin un peu. Mais nous ne sommes pas appelés à rechercher notre plaisir dans les futilités de ce monde, mais à le rechercher dans notre Seigneur. Vous savez ce que disait David, « Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Que le Seigneur nous fasse grâce. Hein.
Amen.
Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de joies terrestres, futiles, passagères qui nous sont offertes et qui nous détournent sans que nous le rendions compte, sans que nous nous en rendions compte de notre Seigneur. Vous savez, si on recherche les joies d'ici-bas, on éteint l'esprit. Parce que l'esprit du monde ne cohabite pas avec l'esprit de Dieu. Et quand l'esprit du monde commence à nous pénétrer, l'esprit de Dieu se retire. Que le Seigneur nous fasse grâce, que nous ayons cette bonne vision. Alors, quelle place occupé dans le travail. Il y a une chose importante, c'est de se placer devant le Seigneur pour lui demander. C'est de se placer devant le Seigneur pour lui demander, parce que sinon, on va avoir une efficacité moindre dans le corps de Christ. Vous savez que tous les membres dans le corps de Christ, comme dans notre corps, n'ont pas la même fonction. Il faut que chacun soit à sa place, selon le don, la capacité qu'il a reçue par l'Esprit. Ah, admettons que tous veulent occuper la même fonction. Ça va pas aller. Il va y avoir embouteillage, il va y avoir des problèmes, et puis il va y avoir des carences dans le corps, il va y avoir des manques. Romains, chapitre 12, verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. » Pour être efficace dans le corps de Christ, dans notre activité, il nous faut nous tenir humblement dans la prière, afin que le Seigneur nous conduise dans l'œuvre qu'il nous a confiée. Vous savez, ce n'est pas toujours les grandes choses qu'il nous confie, ça peut être des toutes petites choses. Mais le Seigneur l'a dit, hein, à ceux qui sont fidèles dans les petites choses, il leur confiera de grandes. La promesse est merveilleuse, non? Alors quelquefois, on pourrait dire, oh bon Seigneur, ça ne me plaît pas trop, ça ne sert pas à grand-chose. Eh oui, c'est quand même utile. Et le Seigneur nous récompensera pour notre fidélité. Excusez-moi, mais j'ai quelquefois des pannes sèches en ce moment. Ah oui. C'est les horribles dégâts des ans. Alors, c'est vrai que pour être efficace dans le corps de Christ, il nous faut d'abord nous tenir humblement dans la prière. Vous remarquez que les apôtres ne faisaient pas autrement. Hein, nous lisons dans Actes 13, Antioche, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Voilà. C'est comme ça, bien sûr, qu'on apprend à trouver la place, l'activité que le Seigneur veut nous confier, c'est dans le jeûne. Et la prière, quelquefois, ou au moins dans la prière, que le Seigneur nous aide. Un des secrets de l'efficacité, c'est d'être à l'écoute de Dieu, à l'écoute du Saint-Esprit. Or, je pense à un chant qui est sur les chœurs et cantiques, et qui dit « À genoux, maître, j'écoute. Que veux-tu de moi, Seigneur ? Je serai, coûte que coûte, l'humble serviteur. » L'humilité, combien c'est important dans l'œuvre de Dieu. L'orgueil fait des dégâts extraordinaires. Je serai coûte que coûte l'humble serviteur. Et le cœur, attendez, c'est pas de l'évangile à l'eau de rose, le cœur. Excusez-moi. Courbe, plie sous ta loi, humilie, soumets-moi. Courbe. Plie sous ta loi, humilie, soumets-moi. Eh bien, dis donc. Vous rendez compte ? Cœur et vie, tout à toi, prends-moi tout à toi. Alors la quatrième strophe, elle dit, si ta volonté m'envoie jusqu'au bout de l'univers, t'obéir sera ma joie par-delà les mers. Ben oui, ça c'est si c'est la volonté de Dieu. Mais la cinquième strophe, elle dit, mais si tu veux que je reste à mon humble place ici, pour une tâche modeste, au Seigneur, merci. Amen. Être efficace, c'est avant toute chose, être soumis au Seigneur et vivre dans l'humilité. L'apôtre Paul avait appris à être efficace. Je ne sais pas si vous voulez le lire avec moi, mais on peut lire 1 Corinthiens 9, 24, si vous voulez. ne hein, 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ?» Courez de manière à le remporter. Amen. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne incorruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours. Non pas comme à l'aventure. Je frappe. Non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Oh, courir à l'aventure, c'est quoi cette affaire? Ben, c'est quitter le chemin, simplement. Le chemin, vous savez que c'est Jésus, c'est lui qui a dit « Je suis », Jean 14, 6, si je me souviens bien, qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et n'oublions jamais la suite, elle est d'une importance capitale. Nul ne vient au Père que par moi. Quitter le chemin, c'est s'éloigner de Jésus. C'est quelquefois, on l'a vu chez certains, le renier malheureusement, et c'est absolument triste. Mais il y a beaucoup plus subtil, vous savez, l'adversaire est rusé. C'est aussi s'attacher à des concepts religieux où Jésus est absent. Jésus, c'est le pain de vie. C'est le pain descendu du ciel. En dehors de lui, nous ne pouvons que mourir de faim. Nous ne pouvons que vivre séparés du Père. Ben, si je prêche pas Christ, je prêche quoi? Ceux qui m'écoutent ne sont pas nourris. Ils ne sont pas nourris du pain de vie. Paul disait, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important, sinon on va prêcher une morale. Ouais. On va prêcher une philosophie, on va prêcher une religion. Nous sommes appelés à prêcher Jésus. C'est l'évangile, le christianisme, c'est une personne avant tout. C'est une personne, c'est pas un système religieux. Je crois qu'il nous faut que nous en soyons pleinement conscient. J'espère que nous le sommes. Alors c'est bon aussi d'être conscient que nous sommes pèlerins et voyageurs sur cette terre. Mais nous ne sommes pas des aventuriers. On n'est pas appelé à courir à l'aventure. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Nous avons besoin d'avoir la vision du but. Nous courons vers Jésus. Nous courons vers Jésus et vers la cité qui a de solides fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alors frapper comme battant l'air, hein, ça, c'est frapper à côté, c'est frapper dans les courants d'air. Pécher, vous savez que c'est littéralement viser à côté. Le péché attriste l'Esprit de Dieu et nous rend inefficace. Alors ceux qui ne voient pas l'œuvre de l'adversaire dans ce monde, hein, il y en a qui ne voient pas l'adversaire nulle part, eh bien, ils frappent comme battant l'air, ils frappent à côté puisqu'ils ne le voient pas. Vous serez d'accord avec moi. Puis il y a ceux qui le voient partout. Comme il est bon partout, ils frappent aussi à côté, ils frappent comme battant l'air, bien sûr. Que le Seigneur nous donne cet équilibre, hein, et ce discernement spirituel dont nous avons besoin. Alors, on ne peut pas ignorer l'importance de l'action du Saint-Esprit. C'est sans l'Esprit, nous sommes sans force, bien sûr. Le Seigneur a pu dire à ses disciples, vous recevrez une puissance, vous recevrez une grande force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous recevrez une grande force. Et cette grande force, bien sûr, elle est répandue dans des vases de terre, dans des vases faibles, fragiles. Et un chrétien qui n'est pas conscient de sa fragilité, de sa faiblesse en dehors de Dieu, et sans lui, eh bien, il n'aura pas beaucoup d'efficacité. Il pourra même se glorifier, mais Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Dans 1 Corinthiens 12, il est écrit « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Vous remarquez, à chacun, il n'y a pas d'exception, hein. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Les distribuant à chacun, hein, c'est répété, à chacun en particulier, comme il veut. Nous avons tous reçu quelque chose. Non ? Amen ? C'est bien si vous êtes d'accord un peu. Avec moi, vous avez mon courage. Je ne sois pas tout seul. Il est écrit aussi « Aspirez aux dons les meilleurs ». Recherchez la charité, recherchez l'amour. Aspirez aux dons spirituels, en particulier à celui de prophétie. L'apprenti, celui qui travaille avec le Seigneur, il aspire, s'il est de bonne volonté, il aspire à avoir les qualifications du maître. Les qualifications que le maître veut lui donner. Alors, il est important pour nous de prier aussi avec efficacité. Jacques 5,16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité, une grande efficacité. La prière agissante, la prière bouillante, la prière bouillonnante, opérée par le Saint-Esprit dans le juste, elle a une grande efficacité. Il ne s'agit pas d'une longue litanie ennuyeuse, mais c'est un cri vers le Seigneur, cette prière fervente. Nous avons besoin de crier vers le Seigneur dans ces temps difficiles. Moi, je me suis un petit peu questionné, parce que quand on voit tout ce qui nous est arrivé ces derniers temps, j'ai pas eu l'impression que vraiment on criait vers le Seigneur. J'ai pas eu ce sentiment-là que l'Église elle criait vers le Seigneur, pourtant il y a des morts. Nous avons besoin de nous réveiller. Jésus revient bientôt. Amen. L'efficacité, c'est vrai, de la guérison du corps et de l'âme, elle passe aussi par la prière réciproque parmi les enfants de Dieu et la confession, peut-être même quelquefois, des péchés. Mais il est nécessaire que notre prière soit partie intégrante de notre activité. On travaille, on prie, on reste, notre esprit reste en prière dans notre activité. C'est important, ça. Et puis, quelquefois, on se trouve dans une situation particulière. Je vais vous raconter encore une petite histoire. Je vous l'ai peut-être dit déjà, parce que je n'ai pas toujours la mémoire de ce que j'ai dit. J'avais un collègue qui a remplacé le caissier dans l'entreprise où je travaillais. Et puis, au bout de quelques jours, il y avait un trou phénoménal dans la caisse. Enfin, là, qu'est-ce qui se passe ? Surtout que cet homme-là était honnête, connaissions très bien. Alors, tout le monde a repris toutes les paperasses et a tout pointé dans tous les sens. Et tout le monde s'est mis. Il n'y en a qu'un qui s'y était pas mis, c'était moi. J'étais trop occupé à l'époque, j'avais une affaire à faire urgente et j'ai pas le temps de pencher sur la question. Personne n'a trouvé. Et le pauvre homme était bien ennuyé parce que la direction, écoutez bien, la direction lui avait fait signer une reconnaissance de dette. Il n'avait pas un rond. Alors c'est vrai que ça m'a parlé un petit peu. J'ai dit Seigneur quand même. Ça me paraît une chose anormale que cet homme-là soit accusé. Quoi. Qu'est-ce que vous voulez ? Alors, j'ai prié.
de prier. J'ai dit, le Seigneur, c'est injuste. Tu vois ce qui se passe. Aide-moi à trouver. Je n'ai pas mis deux minutes à moi. Miraculeux. Je suis tombé dessus directement. J'ai pris les paperasses, je lui ai mis devant le nez. J'ai regardé. Oh, comment vous avez fait? J'ai prié.
Amen.
Et cet homme-là, c'était un athée, un incroyant. Un incroyant notoire. Il ne voulait rien entendre de l'évangile. J'ai pu lui donner une Bible et puis lui rappeler ce que c'était le salut. Donc j'ai dit. Écoutez la suite. Il est parti en vacances. Je n'ai jamais revu les morts. Le Seigneur lui donnait sa dernière chance.
Justement. Amen.
Vous voyez, c'est vrai que dans nos activités, même dans le monde, il y a. Bon, c'est un petit exemple, ça. Mais il y a multiples exemples où on peut s'engager parce qu'on prie et que le Seigneur nous conduit. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alors, quelle est la base de l'efficacité dans la prière? Bon, on pourrait dire que c'est d'abord de prier comme le Seigneur nous l'a enseigné. Il nous a enseigné de prier le Père, bien sûr, en son nom. Et puis, c'est notre relation intime avec Dieu. Jésus a posé d'ailleurs une base de l'efficacité dans la prière. C'est Matthieu 6:6 que vous connaissez bien, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Comme quoi, il est nécessaire de fermer la porte à tout ce qui pourrait nous distraire, à tout ce qui est extérieur pour prier notre Père. Et le lieu secret, il faut qu'il soit bien meublé. Est-ce qu'il est bien meublé, votre lieu secret? Il faut qu'il soit meublé avec les promesses de Dieu. Bien meublé des promesses de la parole de Dieu. C'est important. Entre dans ta cellule, traduit Chouraki. Prie ton Père, il est ton Dieu. Alors remarquons la différence qu'il y a entre Dieu, et notre Père. Quand par exemple, le fils du roi, par exemple, s'il s'adresse à son Père en public, il va utiliser un langage, une attitude particulière qui est due au rang de son Père, bien évidemment. Mais il y a une différence. Il y a quand même une grande nuance quand il s'adresse à son père en aparté, quand il s'adresse à son père en privé, quand ils sont seuls à seuls. Il va lui parler certainement avec des mots un peu différents. Or, le pécheur perdu, lui, n'a aucun privilège. Mais les chrétiens ont des privilèges, ils ont des responsabilités, bien sûr. Il n'y a pas de privilège sans responsabilité. Alors, quand de tout cœur, nous disons « Mon Père, mon Père, mon Père, le cœur de Dieu est touché. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Quand nous disons « mon Père » dans le lieu secret. Pour nous, et pour ceux en particulier, disons, qui ont perdu leur Père, ou qui ne l'ont pas connu, c'est dire « mon Père » comme ça fait du bien. Ça fait du bien. Ton Père céleste, il est là, dans le lieu secret. Il est plein d'amour pour toi. Tu es son fils. Tu es sa fille. Alors, tu vas lui parler avec ton cœur. Et tu vas lui dire, mon Père, voilà où j'en suis. Voilà mes besoins. Pardonne-moi. Parce que j'ai encore besoin de mieux te connaître, de mieux vivre ta parole. Il faut lui dire « mon Père ». Amen. Comme ça fait du bien. Entre dans ta chambre. Alors on peut s'enfermer, c'est vrai aussi, au milieu des activités, dans la chambre de notre esprit. L'apôtre Paul disait « Dieu que je sers en mon esprit » dans l'évangile de son Fils. Alors c'est vrai que c'est plus facile dans le calme, dans le lieu secret, dans l'isolement. Mais même au milieu de la foule, même au milieu du bruit, de l'agitation, quel que soit l'endroit et les situations, on peut s'enfermer dans la chambre de notre esprit. Un fils de Dieu peut se réfugier à tout moment dans la communion de son Père céleste. Or, il y a quelques endroits particuliers que je voudrais souligner. Par exemple, dans le désert. Le désert. Ça nous arrive de passer par le désert, quelquefois. C'est un chemin difficile. Mais Jésus, lui, se retirait dans le désert pour prier. Hein, dans Marc 1, 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Mais c'est bon, ça. Mais il y a aussi la royauté de David. Elle a été forgée au désert, vous le savez très bien. Vous savez, nos déserts, ils nous forment. C'est pas inutile, quelquefois qu'on passe par certains chemins pas faciles. Ils nous forment pour un jour régner avec Christ. Nous avons besoin d'en être conscients. Dans ces moments difficiles, nous pouvons lever nos yeux, savoir que le Seigneur est là, même dans le désert. Alors, si nous sommes dans le fond de l'abîme, dans la difficulté extrême, psaume 130, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel, Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. On peut avoir cette intimité avec le Seigneur, même dans les moments difficiles, dans les situations extrêmes. Paul, il avait connu ça. En 2 Corinthiens, si vous relisez, je ne vais pas le faire, là, ça va être trop long, 2 Corinthiens 11, 24, 25, hein, il disait par exemple, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Il avait beau être dans l'abîme, il restait dans l'intimité, il est resté dans l'intimité de son Seigneur. Nos petits bobos à côté, vous savez, ils sont toujours bien grands, quand on voit ce que l'apôtre a connu, que le Seigneur nous aide à relativiser tout ça. Nos prisons, ah oui, certains chrétiens aujourd'hui sont en prison, ils sont en communion avec leur Seigneur. Même la prison, les barreaux n'empêchent pas la communion avec le Seigneur. Puis vous savez, il y a des prisons sans barreaux aussi, ça existe ça, les prisons sans barreaux. La vieillesse, c'est une prison sans barreaux. Et quelquefois, pour certains, c'est difficile de se déplacer. Et même dans cette prison-là, on peut garder cette bonne intimité avec le Seigneur et être utile à l'œuvre de Dieu, à prier pour nos frères et sœurs, à prier pour les frères et sœurs persécutés. Et on remarque d'ailleurs que certes, beaucoup d'épîtres-là ont été écrites par Paul alors qu'il était en prison. Hein. Il disait à Philémon, Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Il n'était pas prisonnier des Romains pour lui. Prisonnier de Jésus-Christ. Il avait gardé cette intimité avec le Seigneur. Or, certaines prisons peuvent nous permettre d'écrire de belles pages dans notre vie. Ça semble dur, mais c'est vrai. C'est vrai. Alors, il y a un endroit par excellence, bien sûr, c'est nous réfugier en Christ, vraiment. C'est lui le rocher des siècles. On se cache au creux du rocher. On y trouve un refuge au soir de nos journées. Et on se couche, on s'endort dans les bras du Seigneur. Non ? Faites pas, vous, ça ? Quand ça va pas ? Quand tout tourne mal ? Oh Seigneur, tu me réfugies en toi, prends-moi dans tes bras, Seigneur. Et on trouve la paix. Et on trouve la paix, une paix qui dépasse notre intelligence. Alors, quels que soient les lieux, les circonstances, rien ne peut nous priver, nous séparer de notre intimité avec le Seigneur. Encore, juste un mot. L'unité. Bien sûr. Bon, je dis quelques pensées, là, je ne suis pas peut-être allé jusqu'au bout du sujet de l'efficacité, hein, je m'en rends bien compte, mais l'unité nous rend efficace dans le témoignage. Qu'est-ce que Jésus a dit dans la prière sacerdotale? Vous le savez bien. Que aussi soit un en nous pour que le monde croit. Oh, ils ont l'air. Qu'est-ce qu'ils sont durs? Qu'est-ce qu'ils ont le cœur dur? Ils ne veulent rien entendre. Mais attention, est-ce que nous sommes suffisamment unis? Est-ce que nous avons réellement ce lien de l'esprit? Alors il dit encore, le Seigneur, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.
Amen.
Que le monde croit, que le monde connaisse que Dieu les a aimés en Jésus-Christ, au point de donner ce qu'il avait de meilleur. Que le Seigneur nous aide dans notre témoignage. Or, le Seigneur veut travailler avec nous. Il désire que nous soyons ouvriers avec lui. Il est vraiment nécessaire qu'il y ait un amour réciproque.
Amen.
Un amour réciproque. Que nous ayons une foi qui ne soit pas factice, une foi sentimentale, vous savez, être sur un petit nuage. L'homme de foi, il a les pieds sur terre, mais il a le cœur au ciel. Mais si j'ai une foi sentimentale, je suis sur un petit nuage entre les deux. Voilà. Nous avons besoin d'avoir une foi en action, une foi qui agit, qui n'est pas morte. Nous avons besoin d'une même espérance, d'une même vision. Nous avons besoin de mettre en pratique, bien sûr, la parole, les enseignements, les livres. Nous avons besoin de vivre dans l'unité de l'esprit et d'avoir le désir de semer et de travailler avec le Seigneur. Il veut, nous soyons ouvriers avec lui, et c'est lui le chef de l'Église, il en est la tête. Sachant bien que la base élémentaire de l'efficacité, c'est la relation intime que nous avons avec lui dans chacune de nos journées.
Amen.
Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen.